Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre Bill Hughes. On s'intéresse aujourd'hui à la fin de sa carrière et surtout au bilan qu'il a laissé après 50 années de carrière parlementaire. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. On va sortir de la politique pure et dure parce que y a un point que j'ai trouvé intéressant sur Billy Hughes. Il me semble qu'il a joué un rôle assez important dans le développement du transport aérien en Australie. Je rappelle que Qantas, l'entreprise à laquelle on a également consacré un long épisode, a été créée en 1920, donc à l'époque où Billy Hughes était Premier ministre. Est-ce que c'est une coïncidence? J'aimerais bien qu'on en parle. Et puis, il a aussi soutenu un espèce de concours visant à réaliser le vol le plus long du monde à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur tout ça?
Oui, alors en fait, c'est quelqu'un qui voit les bénéfices de l'aviation sur le front occidental, l'avantage que ça peut donner en termes militaires, mais surtout sur les questions de transport et pour diminuer les distances. On connaît cette idée de tyrannie de la distance en Australie. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup et à une époque où il faut des semaines, voire des mois pour relier l'Australie et l'Angleterre. Et donc, il organise une compétition. Et à l'époque, évidemment, hein, vous ne faites pas Londres, Sydney en direct. Vous avez un nombre d'arrêts assez impressionnant. Donc, ça prend quand même quelques jours, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que quasiment 2 mois de bateau. Il encourage effectivement le développement de compagnies aériennes, hein, et Qantas est l'une des compagnies aériennes les plus vieilles du monde. Elle a été fondée en 1920. Et à l'époque, effectivement, il propose un prix de mémoire de 10 000 livres. C'est un prix absolument colossal en valeur contemporaine, si vous voulez, pour encourager certains aviateurs à venir depuis l'Angleterre et à parcourir ces 18 000 kilomètres qui séparent Londres de Sydney avec tous ces petits arrêts. Donc effectivement, il a eu un rôle majeur pour lancer cette industrie aérienne. Et comment dirais-je, le but étant de progressivement désenclaver l'Australie, non seulement vis-à-vis de l'étranger, de l'extérieur et de l'Europe, avec lesquelles l'Australie entretient des liens très forts, mais aussi pour l'intérieur de l'Australie, comme il s'agit d'un continent. Pouvoir voyager par les airs plutôt que à dos de cheval ou sur une voiture assez claudiquante, il y a quand même un intérêt. Donc, il a vu que cette innovation était importante et il a doté, enfin du moins il a apporté un soutien gouvernemental pour l'après-guerre en Australie pour développer l'aviation.
Ok. Et alors pour terminer, parce que donc ce monsieur a plus de 50 ans de carrière parlementaire, il va décéder à l'âge de 90 ans. Et au cours de cette très longue carrière politique, j'ai lu que c'était un homme quand même assez abrasif qui s'est fait des ennemis très sérieux. Puis ben on imagine que c'est bien le cas quand on se fait virer 4 fois du parti dont on est le chef. C'est qu'il y a quand même sûrement un peu des tensions. On a dit aussi que c'était un homme très influent, un peu un faiseur de rois. Quand vous le décriviez tout à l'heure, j'ai pensé à la série Baron Noir tout de suite. Mais malgré ces tensions parfois très fortes avec d'autres politiciens, il est resté pendant toute sa carrière extrêmement populaire auprès du grand public, des Australiens. Et d'ailleurs, au moment de ses funérailles, il y a 450 000 personnes qui assistent à Sydney. C'est dingue.
Oui, et c'est paradoxal parce qu'effectivement, côté bureau, c'est quelqu'un qui aiguise les couteaux, et côté vitrine, il était très aimé des Australiens. Alors, il y a plusieurs choses qui expliquent ce paradoxe. La première, c'est que c'est une personnalité politique qui a été là pour des générations d'Australiens. Donc, d'une part, tout le monde le connaissait, si vous voulez. D'autre part, c'était un orateur absolument sensationnel. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit et redit et continuellement redit. C'est quelqu'un qui a une capacité de convaincre les foules. Et peut-être effectivement que ça vient du mouvement travailliste et de ses jeunes années de militantisme, qui est assez impressionnante. C'est un Jaurès local, si vous voulez. Enfin, l'analogie s'arrête probablement là, hein, juste sur les qualités d'orateur.
Oratoire.
Oratoire, pardon. Politiquement, effectivement, c'est quelqu'un qui n'avait aucune pitié, quelqu'un que vous jetez par la porte et qui va revenir par la fenêtre. L'idée qu'on lui dise non ou qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, c'était pas possible, au point que parfois sa santé y passait, hein. C'est quelqu'un qui s'est écroulé à plusieurs reprises et qui parfois, pendant quelques semaines ou quelques mois, devait aller se reposer parce qu'en fait, il était toujours au combat. Toujours au combat, toujours remonté, et soit on le suivait, soit c'était attaque frontale de façon répétée et comment dirais-je, et virulente, et parfois violente au moins symboliquement. Il fait partie de cette veine d'hommes politiques australiens qui ont influencé des personnalités politiques comme Lang, comme Keating par exemple aussi, où le verbe est vraiment utilisé pour assassiner et pour défendre des idées également, évidemment. Et quand il décède, c'est effectivement un grand moment pour l'Australie, à la fois vis-à-vis de sa propre personne, mais en fait, les Australiens ont bien conscience qu'il tourne une page. C'est quelqu'un qui était là pendant le premier Parlement australien en 1901, qui a présidé à l'avenir du pays pendant la Première Guerre mondiale, pendant l'entre-deux-guerres, qui était encore là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on sent bien qu'en fait, il se passe quelque chose générationnellement. Et il faut bien rappeler que 450 000 Australiens en 1952, ils sont à peu près un petit peu moins de 8 millions. Donc, c'est quand même énormément de gens qui se rendent à ces funérailles, proportionnellement. Parce que c'est une grande figure politique et que même si, comment dirais-je, il avait changé d'idée ou de parti à plusieurs reprises pendant sa carrière, bah, finalement, chacun pouvait s'y retrouver un petit peu parce qu'il y a forcément un aspect qu'il a défendu à un moment donné dans lequel chaque Australien pouvait se reconnaître.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Romain, pour toutes ces précisions concernant ce monsieur Billy Hughes, le parlementaire à la plus longue carrière politique. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. On continuera donc de s'intéresser aux premiers ministres les plus marquants de l'histoire de l'Australie. Et la prochaine fois, on parlera à nouveau d'un travailliste. Il s'agit de John Curtin qui, contrairement à Billy Hughes, qui a été Premier ministre pendant la plus grande part de la Première Guerre mondiale, John Curtin, lui, l'a été pendant la Seconde. Et donc, c'est à lui qu'on s'intéressera la prochaine fois. Encore une fois, Romain, merci pour vos lumières et merci à vous, chers auditeurs.
Merci à vous, bonne journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.